Nous serons dans Hébreux chapitre 13 et nous allons simplement regarder deux versets et ce sera l'occasion de creuser le sujet qui est abordé un peu et puis aussi de parler de comment on retrouve ce thème de direction, de leadership spirituel dans le reste du Nouveau Testament. C'est Hébreux chapitre 13 et comme la semaine passée nous avions vu les versets 7 à 16, bon, aujourd'hui on va voir les versets 7 et 17 qui forment un peu le début et la fin de cette exhortation. Hébreux chapitre 13, et donc je vais lire les versets 7 et 17. Verset 7, nous lisons: Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de votre vie et imitez leur foi. Et puis au verset 17, nous lisons: Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Le sujet ici est très court, on pourrait dire, et très simple. Et ça parle de l'attitude de ces chrétiens qui recevaient la lettre et de l'Église envers leurs dirigeants. Et on peut poser cette question, bon, qui sont ces dirigeants ou ces conducteurs? Que, en fonction des traductions que vous avez de ce chapitre, qui sont-ils? Et ils sont mentionnés trois fois au chapitre 13 des Hébreux. Ils n'ont pas été mentionnés avant. Les deux fois qu'on a déjà vu, les versets 7 et 17, et puis au verset 24, si vous regardez vers la fin, où l'auteur dit: Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Le mot qui est traduit conducteur ou dirigeant signifie littéralement une personne qui est en vue ou une personne qui est estimée. Mais l'expression est utilisée pour désigner, la plupart du temps, ceux qu'on est en train de suivre, c'est-à-dire les gens qui sont estimés parce qu'on est en train de suivre leur direction. Dans Luc chapitre 22, le verset 26, Jésus dit ceci en parlant de qui aura l'autorité, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et dit, en parlant des abus de pouvoir, chez vous, rien de semblable. Mais au contraire, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, et celui qui dirige comme celui qui sert. Et là, le terme celui qui dirige, c'est la même racine, le même verbe qui est utilisé pour parler donc de ses conducteurs ou de ses dirigeants. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train d'exhorter et d'encourager les chrétiens à avoir une certaine attitude vis-à-vis des dirigeants de l'Assemblée. Dans le Nouveau Testament, ici on a vu, c'est les conducteurs, second 21, je n'ai pas regardé, mais ils utilisent quel mot pour traduire? Au verset 7 et 17? Les conducteurs, ok, bon, ils ont la même chose alors. Le terme qui est utilisé est conducteur, ce n'est pas un terme qu'on trouve très souvent dans le Nouveau Testament, à part les paroles de Jésus et quelques autres endroits seulement. La plupart du temps, les dirigeants des assemblées, vous connaissez les termes qui sont utilisés. Il y a les anciens, c'est un des mots qui est là. Les bergers, ou parfois on dit les pasteurs, hein, ça vient du latin qui est là. Les bergers de l'Église, ou encore les surveillants, qui est parfois traduit donc évêque ou épiscope, j'ai même vu dans un. Et le Nouveau Testament, c'est intéressant, n'a pas un titre particulier pour les dirigeants. Mais c'est plutôt le terme sera différent en fonction du rôle ou du besoin qui est décrit. Donc, quand on est en train de parler des dirigeants qui sont en train de veiller spirituellement sur l'Église, on parlera des bergers ou des pasteurs. Quand on pense à ceux qui ont la maturité spirituelle, à qui on va venir pour les décisions, pour le discernement, pour l'enseignement, souvent c'est le terme ancien qui est utilisé. Et les anciens, surtout dans la culture juive, c'était les dirigeants de la communauté. Et puis quand on parle de ceux qui gèrent la vie de l'Assemblée, et de nouveau, c'est les mêmes personnes, mais quand on parle de cette gestion de la vie de l'Assemblée, de veiller à la santé de l'Assemblée, c'est souvent le terme surveillant ou évêque qui est utilisé. Et donc l'idée là, c'est bien sûr, ce sont des titres qui sont utilisés parce qu'ils avaient un rôle différent dans l'Église. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les apôtres et pour les auteurs du Nouveau Testament, inspirés par l'Esprit, c'était plus important de parler de leur tâche que de trouver le bon titre à coller dessus. Et plus tard, dans l'histoire de l'Église, bon, on a dit, bon, les évêques, ils ont tel rang, et les anciens, ils ont tel rang, et les pasteurs, ils ont tel rang. Et je crois qu'on a perdu de vue cette idée plutôt que les dirigeants, c'est ceux qui veillent, c'est ceux qui prennent soin de l'ordre, qui surveillent spirituellement, qui enseignent. Mais ce n'était pas vraiment l'idée, on va créer une hiérarchie de quels dirigeants font quoi. Et ici, donc, les conducteurs, la plupart des biblistes, des experts pensent, les conducteurs, de nouveau, c'est ces anciens ou ces évêques, ou encore, donc, comme j'ai dit, les bergers de l'Église. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire que la fonction de dirigeant, que s'il y avait des anciens, ils rempliraient, mais il y avait toujours cette position ou cette responsabilité dans l'Église, celle de guider l'assemblée spirituellement et les saints dans l'enseignement de Dieu et dans une vie qui plaisait à Dieu. Une des questions, juste très brièvement, qu'on peut poser, c'est est-ce que les dirigeants ou les conducteurs au verset 7 sont les mêmes qu'au verset 17? Parce qu'au verset 7, vous avez vu, il dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. » Et on pose cette question parce qu'au verset 17 et 24, pour sûr, c'est ceux qui sont présents dans l'assemblée. Parce qu'il dit « Obéissez-les, soumettez-vous à eux. » Il dit « Saluez-les » quand ils reçoivent la lettre. Donc, pour sûr, ils sont en vie, parce qu'on ne peut pas les saluer autrement. Mais quand on regarde au verset 7, c'est assez intéressant comment il les décrit. Quand il dit « Souvenez-vous d'eux », ce n'est pas vraiment l'idée de les obéir. On se souvient de ce qui est arrivé par le passé. Et là, ce n'est pas vraiment une expression pour estimer ou pour regarder. Ah, c'est vraiment l'idée de vous rappeler de ces personnes. Il les appelle pas seulement des conducteurs, mais vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est ceux qui étaient là dès le début de leur vie spirituelle, en train de proclamer l'évangile, la parole de Dieu pour eux. Et il dit aussi considérer l'issue de leur vie. On pourrait aussi traduire le résultat, ou même le terme est parfois utilisé pour dire la sortie. D'accord? Exit, ce qui est écrit juste au-dessus des portes. D'accord? Il dit pensez à l'issue de leur vie. Et donc, cela laisse penser qu'il s'agit ici des dirigeants, des conducteurs de l'assemblée, qui étaient là au début, qui avaient prêché fidèlement l'évangile de Christ, qui avaient enseigné à cette église comment marcher d'une manière qui plaît à Dieu, et qui avaient été des exemples de foi tout au long de leur vie. Et maintenant, ils sont partis être avec le Seigneur. Et leur vie s'est terminée, s'est soldée dans la foi en Christ. Et je crois qu'il s'agit de cela ici. Il y avait des conducteurs dans cette assemblée, des conducteurs fidèles qui ont amené ces chrétiens à la foi, qui les ont guidés et qui maintenant sont morts. Mais malgré la fin de leur vie, ils sont toujours un témoignage, des guides et des exemples pour l'assemblée. Et je lisais un commentaire sur ce passage. Il disait, on a eu tout ce chapitre 11 qui parlait des héros de la foi de l'Ancien Testament. Et des héros de la foi de l'histoire de l'Église et de la communauté, du peuple de Dieu. Mais ce qui est plus frappant pour nous parfois, ce n'est pas juste les histoires qu'on lit dans la Bible, mais c'est ceux et celles qui nous ont précédés et qui ont été des exemples de foi que nous avons vus, nous-mêmes. Et une des marques des dirigeants ici, c'était des gens qui avaient vécu par la foi, qui avaient été des exemples, et les gens les connaissaient, ces chrétiens les connaissaient. Ce n'était pas juste des histoires écrites dans la Bible, c'était des histoires écrites sur leur cœur parce qu'ils les avaient vues à l'œuvre. Et donc, malgré la fin probable de leur vie ici, ils continuent à être des exemples et des dirigeants par leur vie qu'ils ont vécue au sein de l'Assemblée. Bon, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ces conducteurs en lisant ces versets? J'aimerais juste parler de quelques descriptifs qu'on pourrait dire au sujet de ces hommes qui sont là. Premièrement, on peut affirmer qu'ils ne vivaient pas pour eux-mêmes, mais qu'ils vivaient pour les autres. Ces dirigeants qu'on voit décrits au chapitre 13 ne venaient pas à l'église en se disant « qu'est-ce que les autres vont faire pour moi ?» Ils n'avaient pas l'attitude dans l'assemblée en disant « comment est-ce que je peux profiter de ma position, de mon autorité, de ma direction pour me faciliter ma vie ?» Ils avaient l'attitude de « qu'est-ce que je vais faire pour les autres ?» Et ils comprenaient que leur manière de se conduire et de vivre devant les hommes était un exemple aux autres. Et ils tâchaient donc de vivre en conséquence. Et donc, une des choses que nous pouvons affirmer pour ceux qui sont des conducteurs spirituels dans l'Église, c'est cette première attitude, c'est « ma vie existe pour les frères et les sœurs ». Et ça, c'est comme Jésus l'a dit dans le passage que j'ai lu dans Luc 22, c'est très différent de la manière de voir le leadership, la direction dans le monde, n'est-ce pas? Où on essaye de monter pour avoir du pouvoir, hein, pour avoir de l'influence, pour être bien vu des autres. Mais ces dirigeants, si ils étaient des dirigeants, ils avaient de l'autorité pour servir les autres et pour penser aux autres plutôt qu'à eux-mêmes. Voilà leur but, voilà leur objectif. C'était des gens qui avaient donné leur temps pour annoncer la parole de Dieu, qui avaient fait l'effort d'être des exemples dans la vie qui n'est pas du tout facile. C'était des gens qui veillaient et qui voulaient le bien de ceux qui les suivaient. Et j'aimerais juste aussi mentionner une autre chose qu'on pouvait voir à leur sujet, c'est qu'il y en avait plusieurs. Dans l'assemblée, ce n'était pas comme s'il y avait un homme qui était le chef de l'assemblée et tout le monde le suivait. Et parfois, on peut trouver, si on regarde dans certains livres sur comment faire grandir l'Église ou des sites Internet, on parle du modèle de Moïse pour l'Église. Et c'est quoi l'idée du modèle de Moïse? C'est on a Moïse qui est devant, Dieu lui parle et tout le monde le suit. Et l'idée qui est derrière, c'est que si une assemblée veut grandir, il faut juste qu'il trouve ce Moïse guidé par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, on met toute l'autorité sous cette personne. Il y a des autres gens qui exercent l'autorité comme subalternes. Mais on va trouver notre Moïse pour l'Église et l'Église va grandir. Et souvent, on verra des fruits à court terme de cette manière. Parce que quand il y a une personne qui décide, il n'y a pas de conflit, n'est-ce pas? Il y a une vision, il y a un plan, bon, en théorie, n'est-ce pas? C'est l'idée. Et les gens vont suivre. Bien sûr, une des grosses difficultés et un des grands dangers là derrière, c'est que tout repose sur un homme. Et quand il y a le péché qui entre dans la vie, quand il y a tout simplement la mort de cette personne ou une séparation à cause d'un déménagement ou toutes ces autres choses, bon, l'Église se voit énormément affaiblie. Ce que nous voyons systématiquement dans les Églises du Nouveau Testament, c'est que les dirigeants étaient plusieurs. Et cela était bon pour l'Église, même si parfois, ça voulait dire que ça va plus lentement, que les gens doivent se mettre d'accord et qu'il faut travailler ensemble. Mais cela permettait aussi de partager le fardeau, qui est conséquent, de prendre soin des besoins spirituels de l'Assemblée. Et on peut aussi dire... Et il faut souligner cela, les dirigeants étaient des gens qui annonçaient la parole de Dieu. On voit ça au verset 7, c'est une des choses clés qui les décrit. Mais on pense aussi qu'au verset 17, quand on parle d'obéir au conducteur et d'être soumis, ce n'est pas juste une idée de ces conducteurs arrivent à l'église et donnent des instructions chaque dimanche et il faut obéir. Mais c'était une idée de comment est-ce qu'on répond à leur enseignement qui était là. Et les dirigeants ont ce rôle d'annoncer fidèlement la parole de Dieu. Et n'oublions pas, on vient de passer des mois à regarder 12 chapitres d'enseignement, surtout doctrinal, à l'Église. Et ce que nous voyons ici, c'est que les chrétiens qui ont reçu cette lettre, ils avaient des enseignants fidèles chez eux, qui étaient en train d'enseigner. Mais il y avait eu un besoin, chez un missionnaire ou un évangéliste, d'envoyer cette lettre en plus pour soutenir l'enseignement des dirigeants, parce que les gens étaient tentés par autre chose. Et sans doute, et ce n'est pas une critique donc des enseignants qui sont là. Il y avait des gens, peut-être qui venaient du dehors ou qui venaient d'autres assemblées, qui étaient en train de détourner l'Église. Et là, l'appel, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est de rester avec ceux qui ont fait leurs preuves, qui ont enseigné la vérité et qui continuent en cela. Et donc, les dirigeants, c'est des gens attachés à la parole de Dieu. Avec cela... je vais relire au verset 17. Il dit « Car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. » Et les conducteurs, une des choses qui les décrit aussi, c'est leur responsabilité vis-à-vis de l'Église. On ne pouvait pas et on ne peut pas être conducteur ou dirigeant dans le peuple de Dieu sans assumer des responsabilités énormes. Ils devaient être des gens responsables des âmes des autres qui allaient rendre compte à Dieu pour ce qui se passait. Et avec cela, ils devaient être des gens qui acceptent des responsabilités. Vous savez, moi, je connais des gens qui sont super. J'adore passer du temps avec eux. Je les apprécie énormément. Mais tant que je ne dois pas compter sur eux pour quelque chose. Et peut-être que vous connaissez des gens qui sont comme ça aussi. Très agréables, très gentils, merveilleux dans beaucoup de domaines, mais on ne peut pas leur faire confiance quand il faut compter sur eux. Ah, et ça, ça ne décrit pas le dirigeant, selon Dieu. Ah, c'est des personnes qui sont responsables, qui sont fidèles à leurs paroles, et on peut travailler avec eux, on peut leur demander de l'aide, et nous savons que leur parole correspondra à ce qu'ils vont faire. Voilà l'attitude des dirigeants. Ils rendaient compte à Dieu, mais je crois qu'ils étaient aussi responsables dans tout ce qu'ils faisaient. Les dirigeants, c'était ceux qui travaillaient dans l'Assemblée. Et même dans ce côté, il y a toujours ce côté décisionnel dans la direction qui affectait toute l'Assemblée. De nouveau, ça, c'est une responsabilité. Quand moi, j'avais la direction de la retraite des ados cette année. Quand il faut prendre une décision pour tout le monde, c'est toujours plus difficile que quand on dit à tout le monde « faites ce que vous voulez, ça m'est égal ». Il y a un qui engage beaucoup plus de responsabilité que l'autre. Quand on prend une décision, on est responsable si ça se passe mal. D'accord. Quand on laisse les autres faire comme ils veulent, on se libère des responsabilités. Et il y a un besoin dans l'Église de Dieu et dans le peuple de Dieu de gens qui sont prêts à assumer des responsabilités et tous les risques qui viennent. Premièrement, la responsabilité vis-à-vis de Dieu, qui est de loin la plus importante. Mais aussi des responsabilités envers, les engagements envers les frères et les sœurs. Être des gens sur qui on peut compter et qui sont fidèles. Et puis juste la dernière chose qui les décrit, c'est qu'ils devaient être des dirigeants dans les moments de facilité et de joie, et aussi quand c'était difficile. Faites en sorte qu'ils puissent le faire, c'est-à-dire diriger avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Et gémissant, ça fait penser à Paul, ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, les versets 2 à 4, il décrit la souffrance de sa vie physique maintenant, en attendant la gloire de la résurrection. Et il dit, donc dans 2 Corinthiens 5, verset 2, « Aussi nous gémissons, dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. » Et au verset 4, « Car tandis que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire ce corps, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. » Paul pouvait utiliser ça pour parler d'une vie de souffrance, de persécution, de rejet. C'est triste, mais c'est possible de décrire ça aussi pour une vie de direction spirituelle. Que d'être à ceux qui sont responsables, qui dirigent, qui enseignent, c'est une vie où on gémit et on souffre. Et Paul l'a vécu, il parle parfois de ses souffrances à cause des tracas qu'il avait pour toutes les églises vers qui il prêchait. Mais l'appel de Dieu à diriger, c'est pas juste diriger quand c'est facile ou quand ça va bien, c'est de le faire quand il y a de la joie et de le faire quand c'est des gémissements et de la souffrance. À l'image de comment Dieu reste fidèle à nous lorsque nous lui apportons la joie et lorsque c'est difficile. Bon, on regarde toutes ces choses et toutes ces qualités et j'aimerais juste qu'on réfléchisse pour terminer. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour nous individuellement et en tant qu'Église? Quand je pense à nos vies en tant qu'individus, en tant que chrétiens, j'aimerais souligner que la Bible enseigne clairement que pas tous sont appelés à toutes les responsabilités et à tous les devoirs qui sont décrits dans ce passage. Même dans Romains chapitre 12, les versets 6 à 8, Paul parle des diversités de dons dans l'Église. Et il dit, vous avez des dons, nous avons des dons différents. Et un des dons qu'il mentionne, c'est celle de présider ou de diriger. Et donc, Dieu n'attend pas cela de tous. Et nous ne serons pas tous jugés en fonction de si on a été des bons dirigeants de l'Église. Et donc, ce n'est pas forcément l'appel de dire, bon, chacun d'entre vous, vous devez être les dirigeants d'église. Et aussi même, avec cette idée que tous ne devraient pas diriger, certains ont la capacité de diriger, mais ne devraient pas le faire car ils ont une vie qui ne correspond pas à la foi qu'ils professent. Il n'y a pas une vie d'exemple qui est là. D'autres ont le potentiel d'être des dirigeants, mais ne sont pas encore assez matures dans la foi. ils ont besoin d'une certaine croissance dans les fruits de l'esprit, dans la connaissance de Dieu, dans la maturité de la vie, avant de pouvoir devenir un dirigeant. Et cela n'est pas une mauvaise chose si la trajectoire de la vie est pour grandir. Et d'autres aussi n'ont pas simplement l'attitude d'un serviteur, même s'ils ont les compétences mentales ou émotionnelles pour diriger, ils manquent l'humilité qui est là. Et donc, c'est beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il y a un besoin de cœur qui est bien, qui correspond à ce que Dieu veut. Il y a un besoin de maturité spirituelle, d'une vie sainte, qui est un exemple pour les autres et de ce don de Dieu. Mais ce n'est pas une excuse pour se dire « alors ce passage n'a rien à me dire ». Parce qu'il y a des circonstances que nous pouvons tous partager la parole de Dieu avec ceux qui ne l'ont pas entendu. Peut-être ce ne sera pas en prêchant ou en faisant une étude avec 5 points ou d'autres choses, mais nous pouvons parler de qui Christ est. Nous pouvons parler de qui est Jésus et ce qu'il a fait dans notre vie. Nous pouvons témoigner de l'amour de Dieu autour de nous. Et en faisant cela, nous sommes des conducteurs dans le contexte de notre amitié, de notre famille, de ceux que nous côtoyons au travail, parce que nous les conduisons vers Dieu. Nous avons aussi la possibilité d'être des exemples. Peut-être nous ne serons pas la personne de référence quand on pense dans une génération plus tard à la foi vécue, mais nous pouvons être des exemples auprès de nos amis, de quelqu'un qui suit Christ fidèlement. Nous pouvons être des exemples dans notre famille de l'amour de Dieu. Et nous pouvons être des exemples dans l'honnêteté, dans la joie avec nos collègues et ceux que nous côtoyons. Et cela, de nouveau, c'est conduire les gens à une connaissance de Christ. Et il y a aussi des gens que nous côtoyons, premièrement dans l'Église, mais aussi dans nos familles, aussi au travail, avec les amis, que nous sommes en mesure de servir. Et Christ a dit très clairement que le service fait partie de la direction et d'une autorité, entre guillemets, spirituelle. Et si nous ne sommes pas tous appelés à être des dirigeants, nous sommes tous appelés à être des serviteurs. Et il y a des personnes que nous pouvons servir, et faisons-le. Aidons ceux qui sont dans le besoin, qui sont fatigués, qui sont découragés, qui sont seuls, qui sont malades. Visitons Léa, appelons Albert au téléphone, aidons-nous les uns les autres lorsqu'on est dépassé avec les responsabilités du travail, de la famille et ces autres choses, mais soyons une communauté de service et faisons la même chose dans nos familles, avec nos amis et au travail. Et ces choses-là, ça fait partie de la vie du dirigeant parce que ça devrait faire partie de la vie de tout le monde. Et on peut les regarder et dire « voilà ce que je dois imiter ». Au niveau de l'Assemblée, nous n'avons pas d'anciens. Et j'ai 30 ans maintenant, j'ai grandi dans cette Assemblée. À ma connaissance, on n'a jamais eu d'anciens dans ma vie, sauf... non, je ne crois pas me tromper en cela. Et l'Église, au niveau direction, Brady et moi, nous avons une direction, une responsabilité spirituelle au niveau de l'enseignement, et nous le savons. L'Église prend les décisions lors des assemblées générales, et souvent c'est juste, on continue à faire ce qu'on a toujours fait. Peut-être ça, c'est ce qui caractérise la direction de l'Assemblée. Mais nous n'avons pas donc d'anciens ou pas de diacres. Et c'est quelque chose que peut-être on n'en parle pas assez. Et quelque chose une chose à laquelle nous pouvons aspirer. Je connais des assemblées, des églises du Christ qui ont eu des anciens et des diacres pendant un moment. Et ils ont dû arrêter parce que des personnes sont devenues trop âgées ou le gémissement, le découragement était trop grand. Et ils sont revenus vers quelque chose de plus simple. Et je crois que c'est quelque chose qui est difficile. Et il y a un besoin pour avoir des anciens, pour avoir des diacres, des gens qui ont vraiment un rôle reconnu par toute l'assemblée de dirigeants, que l'Église soit assez grande pour avoir cela. Il faut des jeunes et des moins jeunes qui sont en train de travailler dans leur croissance spirituelle en vue de devenir des dirigeants et des serviteurs. Et je crois que cela peut être notre ambition en tant qu'Église aussi. Peut-être pas de dire « bon, ce soir, on va nommer nos anciens ». Je ne crois pas forcément que c'est à cela que Christ nous appelle. Mais de nous dire « est-ce que nous allons travailler pour que l'Église grandisse et qu'on ait des frères qui puissent devenir, dans quelques années, des anciens, des diacres que nous pouvons suivre avec joie. Est-ce que nous allons chercher à nous aider les uns les autres à grandir dans la sanctification, c'est-à-dire une vie qui ressemble à Christ, dans la croissance et la maturité spirituelle, pour avoir des leaders qui ne sont pas juste les évangélistes, mais des personnes qui sont prêtes à assumer la responsabilité de diriger fidèlement l'Église. Ah, et ça, c'est ma prière pour nous. Lorsque nous regardons le témoignage de la Bible, nous voyons que Dieu appelle certains à diriger et que l'Église, ce n'est pas une anarchie. Même si nous sommes égaux en Christ, dans la grâce, dans l'amour de Dieu, il y a des responsabilités à prendre devant Dieu. Et donc ma prière, c'est que Dieu suscite dans nos vies et dans nos assemblées des conducteurs dans la foi. Que nous aspirions personnellement à devenir des saints qui savent annoncer la parole de Dieu avec confiance, qui vivent pour le bien de nos frères et de nos sœurs et qui acceptent à prendre toutes les responsabilités que Dieu nous donne pour faire confiance à l'œuvre de Dieu dans nos vies.